Bataille, le procès Charbiche, les témoins. Le premier témoin, M. Paul Rieu, l'ami intime de l'accusé, qui l'a conduit avec le plus grand dévouement, mais vainement, chez les prêteurs d'argent dans l'après-midi qui précéda le drame. Charbiche, rebuté, finit par quitter M. Paul Rieu en lui disant « Oh, ce soir, je n'existerai plus ». M. Rieu, très inquiet, s'en fut trouvé le beau-frère de Charbiche, M. Gérin Moz, contrôleur des contributions directes, redoutant un malheur, tous deux, accompagnés d'un autre ami de l'accusé, M. Lavie, se dirigèrent vers la villa de Sidi Mabrouk, et le cocher, qui attendait sous les fenêtres, leur dit que Charbiche venait d'arriver avec une dame. Les amis de l'accusé n'osèrent pas entrer par discrétion et restèrent 2 heures à se promener dans le parc. Il était attendu que le cocher ferait claquer son fouet pour les avertir de la sortie de Madame Jay. Mais au lieu d'un claquement de fouet, ce fut 4 coups de revolver qu'ils entendirent. Et quand ils firent enfoncer les portes à coups de hache, Madame Jay était morte et Charbiche gisait blessé près d'un divan. Demande. Que pensez-vous de l'accusé ? Réponse. C'était un cœur excellent. Henri s'est malheureusement tourné vers la philosophie expérimentale. Il est devenu nerveux, maladif, surexcité. Ne s'est-il pas vanté un jour devant vous d'arriver à posséder Madame Jay ? Oh, jamais il n'a tenu ce propos, je le jure. Monsieur Gérin Rose confirme le récit qui précède. Il était certain que si son beau-frère mettait à exécution ses projets de suicide, il irait se tuer dans cette villa de Sidi Mabrouk où il avait passé son enfance. C'est à lui que l'accusé parla le premier après le drame. « C'est moi qui l'ai tué, » dit Henri Charbiche à son beau-frère. « Nous nous aimions depuis longtemps, nous ne pouvions pas fuir. » Alors, à 2 reprises, M. Gérin Rose fit sortir tout le monde et s'entretint secrètement avec Charbiche en attendant l'arrivée du parquet. Ce qui a pu se dire dans cet entretien, nul ne le sait, sauf le garde champêtre de Sidi Mabrouk, qui affirme avoir entendu ce propos fort grave tenu par Charbiche à son beau-frère. « Je l'aimais, mais elle ne m'aimait pas. » Le cocher Luciani, qui a conduit Henri Charbiche et Madame Jay de la maison Jay à Sidi Mabrouk, déclare que la jeune femme était fort calme. Pour lui, il n'est pas douteux que Madame Jay a dû entendre ce que lui disait Henri Charbiche quand, en montant le perron, il la prévint qu'il aurait sans doute longtemps à attendre. Le cocher attendit en effet 2 heures, immédiatement sous les fenêtres, sans entendre absolument aucun bruit, jusqu'au moment des coups de revolver. Les soldats de remonte, dont la caserne est voisine de la villa de Sidi Mabrouk, déposent ensuite. Ils ont été appelés à l'aide. Henri Charbiche a supplié le maréchal des logis Arnaud de l'achever. « Tirez donc sur moi, tirez donc, si vous n'êtes pas un lâche !» dit-il au maréchal des logis Deschamps. Et il ajouta « C'est moi qui l'ai tué !» Le garde champêtre Versigny affirme de nouveau qu'il a collé l'oreille à la serrure pendant que Charbiche s'entretenait mystérieusement avec son beau-frère, M. Gérin, et répète le propos qu'aurait tenu Charbiche. « Oui, je l'aimais, ne m'aimais pas !» Maître Durier fait observer que le garde champêtre n'a parlé de ce propos à aucun des assistants. Le garde champêtre répond qu'il ne devait de compte qu'à la justice. Les médecins experts sont ensuite entendus. Le docteur Leroy a fait les premières constatations. Le corps de Madame Jay ne portait aucune trace de violence. Le docteur a pensé tout d'abord que les traces de sang constatées sur la main gauche prouvaient qu'en effet, Madame Jay n'avait pu tenir le revolver pendant que Henri Charbiche tirait. Il croit aujourd'hui que ce sang a pu jaillir de la blessure. Quant à la crispation de la main, c'est un des signes de la commotion suprême. Certains assassins le savent si bien, dit Maître Trérieux à ce propos, qu'ils placent des armes dans la main contractée de leur victime pour faire croire qu'elles se sont suicidées. Le docteur Leroy, qui a également fait l'autopsie, n'a découvert la trace d'aucun narcotique, d'aucun stupéfiant. Il est certain, dit-il, que Madame G n'a pas été chloroformée. Le médecin ajoute que Chambiche s'était fait à la joue une blessure des plus légères. Un véritable séton qui a été guéri en 3 semaines. Monsieur le Président fait alors ouvrir le paquet de vêtements de Madame G qui se trouve sur la table des pièces à conviction. Les effets de la pauvre femme, le pantalon, le corset, les jupons, passent sous les yeux des jurés. D'après les témoins, aucun des vêtements ne portait aucune trace de froissement, rien n'était fripé ni déchiré. Avant de se retirer, le docteur rappelle combien il a été frappé du regard de Madame G. La malheureuse n'avait pas l'œil convulsé des suicidés. Le regard avait conservé une étonnante expression de douceur. Monsieur le docteur Béraud confirme la déposition de son confrère. Le docteur Ingley, ami et médecin de Madame G, l'a vue nerveuse et amaigrie après la mort de son petit garçon. C'était une femme digne de tous les respects et entourée de l'estime générale. Monsieur Molière, pharmacien à Constantine, a reçu la visite de l'accusé la veille du crime. Henri Chambigne lui a dit qu'il écrivait un roman dans lequel son héros s'empoisonnait avec du laudanum. Et il l'a consulté sur la dose. « Ma foi, répondit le pharmacien embarrassé, pour être sûr de ne pas te tromper, mais simplement ceci. Il s'empoisonna avec une fiole de laudanum, sans indiquer la quantité. » Rire. Chambige explique qu'il avait pris ce prétexte pour savoir avec quelle dose il pourrait se suicider. M. Benucci, expert armurier, affirme que si Mme G avait tenu le revolver contre sa tempe, elle aurait eu la main tatouée de poudre, l'arme crachant beaucoup, comme les expériences sont établies. Et le dernier témoin entendu ce soir est M. G. C'est un homme de 35 ans, grand, élancé, beau cavalier, portant la barbe taillée en pointe, une tête de savant, très moderne et très homme du monde. M. G est assurément bien mieux que l'accusé, qui, à côté de M. G, donne l'impression d'un garçon souffreteux et malingre. La déposition de M. G, écoutée au milieu de la sympathie et du respect de tous, est un modèle de tact, de mesure et de dignité. M. G déclare être ingénieur des mines, inspecteur principal de l'Est algérien. « Oh, je l'ai appris que pendant une tournée, dit-il, par une dépêche qui contenait ces seuls mots, Madame G, blessée par une arme à feu, le malheur qui m'avait frappé. Et de station en station, des dépêches plus alarmantes m'ont préparé peu à peu à la terrible réalité. En arrivant à Constantine, j'ai su seulement que ma pauvre femme avait été trouvée assassinée à la villa de Sidi Mabrouk, et qu'Henri Chambige était son meurtrier. Ma première démarche fut pour affirmer à la justice ma foi complète envers celle qui n'était plus. Je n'avais à cet égard aucun doute. 10 ans de mariage, succédant à 4 années de fiançailles, me permettaient de répondre d'elle comme je viens de le faire ici. Elle était la sœur de mon meilleur camarade, René Dixon, mort, ingénieur au Creusot. J'avais été introduit dans sa famille au moment où j'entrais à l'école des mines. Une grande sympathie m'attacha tout d'abord à sa sœur Hélène, qui avait d'abord 16 ans. Nous nous sommes mariés en 78 et pendant 10 ans, notre bonheur n'a été troublé par aucun nuage. Elle était la bonté, la pureté, la naïveté elle-même. Elle ignorait le mal, et c'était l'esprit le moins romanesque que j'ai jamais connu. C'est un grand honneur pour moi qu'elle ait porté mon nom. Notre seul tort a été de nous montrer trop accueillants, trop bons. Nous avions été particulièrement reconnaissants à Madame du Camper, mère d'Henri Chambige, de l'intérêt qu'elle nous avait témoigné quand nous avions perdu notre petit garçon. Elle nous avait offert une place pour lui dans le caveau de la famille Chambige. À son tour, quand elle perdit sa fille, Madame Couverchel, une nature charmante, ma femme et moi, nous nous sommes chargés de deux plus jeunes filles survivantes. Ma femme, qui n'a jamais pu voir un enfant souffrir, les emmena à la maison. Et c'est ainsi que Henri Chambige fut introduit chez nous. En venant voir ses deux sœurs, il me semblait sombre, malheureux, romanesque. Je lui témoignais personnellement une grande sympathie. Le jour du crime, il m'avait rencontré à la gare et il me donna une poignée de main en m'annonçant son prochain départ pour la France et en me demandant la permission d'aller prendre les commissions de ma femme, que je venais d'embrasser pour la dernière fois avant de partir et que je ne devais plus revoir que morte. Notre vie a été simple, elle n'a offert rien de remarquable. Ça a été la vie de travailleurs, de braves gens aimant leurs enfants et les élevant. Monsieur le Président, je ne voudrais pas prolonger cette douloureuse comparution à la barre, monsieur. Je suis forcé cependant de vous adresser quelques questions. Au fait, monsieur le Président, je suis ici pour défendre l'honneur de ma femme. Eh bien, après la mort de votre petit garçon, n'a-t-elle pas eu des idées de suicide? Jamais! Sa douleur était profonde, mais il lui restait ses deux petites filles, sa mère, moi. Elle ne songeait pas à mourir. Nous faisions des projets de voyage après son deuil. Elle se faisait une fête de me montrer la Suisse, que je ne connaissais pas. Monsieur Carvinge a prétendu qu'elle vous avait avoué sa passion. C'est une infamie, une sottise monstrueuse. Si j'avais reçu une telle confidence, aurais-je donc eu assez de lâcheté pour ne pas mettre Henri Chambige hors de chez moi? Eh bien, Chambige, répondez. L'accusé d'une voix lente. La modération de M. Jay m'impose un devoir absolu. Je n'ai rien à répondre. Mais cependant, vous avez accusé M. Jay ce matin. Le voici en face de vous parler. Non, je n'ai rien à dire. Vous avez dit que les enfants avaient vu, sans sa présence, Madame Jay vous remettre un billet, qu'il avait averti et qu'il n'avait rien dit. Je n'ai rien à répondre. Monsieur Jay, très dignement. J'ai à dire, moi, que je regarde Monsieur Chambige comme un assassin et que je demande aux honnêtes gens de proclamer l'honneur de ma femme. Mais je ne nourris contre Henri Chambige aucune haine particulière. Ce serait considérer que ma femme a pu commettre une faute, et cela c'est impossible, jamais, jamais. Vive sensation dans l'auditoire. Madame Jay, n'avait-elle pas des valeurs chez elle? Réponse. Oui, 1900 francs en argent de 50 000 francs de titre, sa dot. J'ai retrouvé ses armoires intactes, son linge en ordre, ses petits bibelots disposés comme si elle venait de sortir. Vous savez que l'accusée a eu deux fois avec elle des rapports intimes? Alors elle était inconsciente ou morte. Voici une mèche de cheveux. Chambige affirme qu'elle vient de Madame Jay. Mais c'est une infamie. Du reste, j'ai remis une mèche de cheveux de ma femme au juge d'instruction. Les jurés pourront comparer. Ma femme n'avait pas de mèche blanche. Ses tempes seules s'argentaient légèrement. Et les lettres? Elles ne sont pas d'elle. Ce n'est pas son écriture. Madame Jay n'a jamais envoyé à Henri Chambige qu'un seul télégramme à l'occasion de ses chagrins de famille. C'est celui qui est ici. Si ce télégramme avait eu une signification intime, elle ne l'aurait pas envoyé en présence de sa mère, elle ne l'aurait pas fait figurer au livre de ses dépenses. Je termine en jurant que mon honneur, que je considère Madame Jay comme la plus parfaite honnête femme qui ait jamais existé, et que je m'honore d'avoir été son mari. Vive sensation. Monsieur Jay se retire au milieu de la sympathie générale. À une dernière question de Monsieur le procureur général Maillet. Il fait connaître que Madame Gène avait parfois des terreurs subites, qu'une fois il l'a trouvée endormie à force de regarder fixement une cuillère en vermeil, et que les sortilèges des harissons l'avaient un jour vivement impressionnée. Le regard d'Henri Chambige lui était extrêmement désagréable. Si ma femme m'avait été infidèle, elle eût retiré son alliance avant de mourir, dit M. Jay en quittant la barre. L'audience est levée à 7 heures et renvoyée à demain vendredi pour les derniers témoignages. Audience du 9 novembre. Le début de cette seconde audience est consacré aux experts en écriture. M. Callas, professeur au lycée de Constantine, qui a été chargé de dire si les billets doux trouvés chez Henri Chambige dans son appartement de la rue Gay-Lussac sont bien de la main de Madame Jay, est visiblement un fort brave homme et très convaincu du sérieux de son art. Pendant une heure, ce successeur de Brard et Saint-Omer nous a énuméré les déliés, les boucles, les reflements, les pentes, les obliques, les dégagés d'attaque, les G négligés et les P majuscules, tout à fait remarquables, paraît-il, qui caractérisent les lettres saisies. Il en conclut qu'elles n'offrent aucune analogie avec l'écriture de Madame G, et que dès lors, ses lettres d'amour sont fausses. Maître Durier lui demande si, quand une femme libelle des billets passés furtivement de la main à la main et écrit si fin qu'il a fallu une loupe pour pouvoir les lire, son écriture ne subit pas forcément quelques modifications qui mettent en défaut les experts en écriture les plus infaillibles. Au début de l'instruction, dit M. Durier, M. Jean lui-même a trouvé que l'écriture d'un des feuillets rappelait un peu celle de sa femme. L'audience est suspendue. À la reprise, la cour entend les témoins de la partie civile. M. le général Ritter, commandant la division de Constantine, dépose le premier. L'honorable général parle d'une voix éclatante et sonore, comme s'il adressait une proclamation à l'armée. Voici quelques passages de son discours. « Je porte ici, dit le général Ritter, l'affirmation absolue de l'innocence de Madame Jay, de l'admiration qu'elle m'inspirait, de la séduction qu'elle m'inspirait également et du respect que chacun professait pour elle, de la réprobation unanime qu'a soulevé le meurtre. Elle avait la figure d'une vierge, son œil ne trompait jamais, et on voudrait qu'en un clin d'œil, elle fût tombée plus bas qu'une messaline. Elle aurait glorifié, pour ainsi dire, l'impudicité de la mort. Jamais. J'ai vu dans ma vie le spectacle de bien des vices. La créature la plus basse, je l'affirme, eût été incapable d'outrager la pudeur en se montrant morte dans sa nudité. Il est impossible de comprendre que cette mère de famille soit montée dans ce véhicule sans étouffer ses enfants dans les convulsions de ses étreintes. Je proclame ici l'innocence de cette malheureuse victime et j'offre à sa pauvre mère, à son mari, l'assurance de ma respectueuse amitié. Madame Jay est morte innocente. Madame la générale Ritter témoigna à son tour de ses sentiments d'estime pour le ménager. Il semblait extrêmement heureux et, ajoute Madame Ritter avec un sourire, « Je m'y connais en fait de bonheur. » Suivent encore des experts en écriture, parmi lesquels M. Béraud, économe du lycée de Constantine, qui a été choisi à défaut d'expert de profession, et qui n'en parle pas moins avec une autorité qui n'admet pas la moindre controverse. M. Scherer, ingénieur en chef de la compagnie de l'Est algérien, fait le plus grand éloge de son subordonné, M. Jay et de Mme Jay, dont il vante la bonté et la charité inépuisable. « Quel joli ménage » s'écriait-il. « On dirait deux amoureux. » M. Scherer ajoute que si les ouvriers du chemin de fer placés sous les ordres de M. Jay et qui adoraient leur chef avaient connu le crime à la sortie des ateliers, Le jury n'aurait pas aujourd'hui à faire justice. Sensation prolongée. Le colonel Mahieux, chef du génie à Constantine, donne des attestations les plus flatteuses sur M. et Mme Jay. L'excellent colonel se demandait comment Henri Chambige, qui paraît assez malingre, a pu faire pour transporter sur le lit le corps de Mme Jay. Il s'en est rendu compte plus tard quand un médecin-major lui eut appris qu'Henri Chambige avait une vigueur exceptionnelle et des mollets superbes. Rire. Monsieur Rougier, ingénieur, a rencontré avec sa femme et ses enfants Madame Jay, un quart d'heure peut-être avant qu'elle ne partît avec Henri Chambige. Madame Jay a embrassé les deux enfants de Rougier et a annoncé gaiement au père et à la mère qu'elle irait leur rendre visite le vendredi suivant. Monsieur le Président. Et elle n'aurait pas embrassé ses propres enfants. Les témoins qui suivent sont des amis et des amies intimes de M. et Mme Jay, qui apportent, les uns avec une grande correction, les autres, plus nombreux, avec une passion visible contre l'accusé, leur témoignage en faveur de la malheureuse femme dont ils sont unanimes à faire l'éloge, des collègues de M. Jay, des ingénieurs, M. Daujon, M. Jacob, M. Fock, atteste qu'il n'était pas dans Constantine de femme plus respectée et de ménage plus uni. L'après-midi du crime, une demi-heure à peine avant son mystérieux et fatal départ avec Henri Chambige, Mme Jay a proposé à Mme Daujon une promenade sous les pins. Elle semblait gracieuse et enjouée comme à l'ordinaire. La cuisinière de Mme Jay, Philippine Faure, déclare que le jour de sa mort, sa maîtresse avait fait, comme toujours, travailler ses fillettes et qu'elle l'a entendue chanter avec elle pendant le déjeuner. Elle a vu Mme Jay monter en voiture avec Henri Chambige et lui a trouvé l'air le plus naturel. Chambige chantonnait, même dans le jardin, pendant que Mme Jay jetait une mante sur ses épaules. Une voisine de la maison Chambige, Mademoiselle Girard, a vu, elle, Henri Chambige et Madame Jay arriver à la villa. Bon, sa déposition est très précise. Chambige, dit-elle, a monté le perron, suivi de Madame Jay, qui paraissait absolument calme. Je suis convaincu qu'elle a dû l'entendre quand il a dit au cocher Luciani « Restez là, vous attendrez peut-être longtemps, par exemple ». Et qu'elle a vu Henri Chambige enlever la clé de la serrure après avoir ouvert la porte. Mademoiselle Girard ajoute que presque aussitôt, le jeune homme a entrouvert les volets de la chambre où allait s'accomplir le drame et sous lesquels l'attendait le cocher, Luciani, qui, malgré cette circonstance, n'a, on se le rappelle, entendu pendant 2 heures aucun cri, aucun bruit suspect jusqu'au coup de revolver. Madame Fock, amie intime de Madame Jay, proteste contre toute idée de suicide de la part de la jeune femme et contre toute possibilité d'une liaison adultère avec Henri Chambige. Elle est convaincue, mais bien entendu, sans qu'aucune preuve matérielle ait justifié son sentiment, ni les autres appréciations purement morales que nous allons entendre, que Madame Jay a dû être attirée dans la villa de Sidi Mabrouk, dont elle avait pris soin à plusieurs reprises pour chercher du linge ou tout autre objet. Le mari de Madame Fock se livre après elle à une longue dissertation géométrique pour démontrer au jury, d'après la position du corps, que Madame Jay a été certainement portée sur le lit, morte et inconsciente. Malheureusement pour lui, cette argumentation est détruite par ce simple fait qu'il n'a vu Madame Jay qu'après le premier examen médical, alors que le corps avait été déjà remué. Monsieur le juge d'instruction, Madone, appelé à la barre, est formel à cet égard. Monsieur Fock a toujours trouvé à Henri Chambige un air théâtral et poseur. Prenait des attitudes de comédien énigmatique et froissait avec cynisme les croyances les plus respectables. Madame Jamais n'aurait pu en venir à aimer un homme qui faisait ainsi litière des sentiments d'honneur. Les seuls sentiments qu'Henri Chambly j'ai pu inspirer sont l'indignation et la pitié. Maître Trarieux, Chambly n'a-t-il pas tenu devant vous un propos singulier ? Le témoin, il disait, et le propos m'a été répété, qu'il aurait désiré éprouver les sensations d'un assassin pour les analyser et se procurer ainsi des émotions nouvelles. Mesdames Mailleux, femme du colonel, chef du génie, et Madame Pelletrault, femme d'un ingénieur, se sont rendues à la villa de Sidi Mabrouk après le crime. Elles ont remarqué toutes deux, dans la pièce voisine de la chambre où le drame s'était accompli, deux ou trois taches gluantes, sirupeuses, de couleur brune, qui leur ont paru très suspectes. Le président. L'expertise chimique ne livre aucune conclusion de l'examen de ces taches. Maître Trarieux. Cette expérience a été faite 4 mois après le crime, et l'on sait que certains poisons végétaux ne laissent aucune trace après 24 heures. Madame Mailleux, de plus, je suis certaine que la toile cirée sur laquelle étaient marquées les taches a été lavée avant d'être livrée à l'expert, qui dans ces conditions ne pouvait plus rien trouver. Henri Chabige. Alors, puisque je n'ai plus hypnotisé Madame Jay, mais puisque je l'ai empoisonnée, je demanderai s'il est vraisemblable qu'une jeune femme ait accepté sans méfiance un breuvage quelconque d'un jeune homme informé seul avec elle et qui venait de fermer les portes à clé. Madame Mailleux n'admet pas un seul instant que Madame Jay ait pu songer au suicide. Elle aimait trop ses enfants, elle était trop heureuse sur la terre. Le témoin, sur une interruption du président, se souvient cependant d'un fait bizarre. Un jour, Madame Jay lui a dit qu'elle s'était endormie en regardant fixement au soleil une cuillère de vermeil dans un verre d'eau. Oh, je me détraque de plus en plus, aurait dit Madame Jay en propre terme. Je me suis endormie toute seule, comme une sotte. Monsieur Sherb, pasteur protestant, et sa femme, amis intimes de Monsieur et Madame Jay, déposent ensuite avec une animation particulière. Il y a eu dans toute cette affaire un point d'honneur protestant qui amenait les deux époux à jouer le rôle le plus étrange. Madame Sherb, arrivée à la villa de Sidi Mabrouk avant les magistrats, a proposé d'habiller Madame Jay afin que, comme cela, dit-elle, il n'y ait aucun doute contre elle. Madame Sherb, qui paraît très décidée et peu commode, voulut même emporter le corps avant l'arrivée du parquet. « Oh, certainement, dit-elle, ce n'est pas la volonté qui m'a manqué, c'est la force. » Madame Sherb ajoute que, dans la matinée qui précéda sa mort, Madame Jay, qui était la bonté même, vint l'aider à poser un appareil à son petit enfant malade. Elle fait le plus grand éloge de la victime, dont la maison, dit-elle, était un véritable bureau de charité. Quant au pasteur Sherb, il est convaincu que Madame Jay, sa coreligionnaire et sa pénitente, a été tuée et portée sur le lit où on l'a trouvée. Le pasteur a eu le tort grave d'aller avec sa femme pendant la nuit qui suivit le meurtre et avant toute arrivée des magistrats, fouiller tous les meubles de la maison Jay, alors que la justice aurait dû y trouver toutes choses dans l'état où la malheureuse femme les avait laissées. Ce reproche s'applique de même aux amis de la famille Chambige, qui ont été jusqu'à emporter certains objets, tels que le portefeuille de Madame Jay, de la chambre où a été trouvé le corps. Et dans cette étrange affaire, ce sont les amis des deux familles qui ont fait les premières perquisitions, chacun de son côté, et le parquet n'est arrivé qu'après ces visites suspectes et intéressées. Maître Durier demande en terminant à M. le pasteur Sherb, qui a prononcé l'oraison funèbre de Mme Jay, s'il ne s'est pas écrié sur la tombe « Nous avons été les témoins de ses vertus et nous soutiendrons même contre l'évidence qu'elle n'était pas coupable. » Monsieur Cher me nie avec indignation d'avoir prononcé ces paroles. Maître Durier réplique qu'il établira plus tard comment elles lui ont été rapportées. L'audience du soir est très émouvante. La mère de l'accusé et son beau-père, M. Ducamper, administrateur de la commune de Châteaudun, ont été entendus. « Mon beau-fils, dit M. Ducamper, est une nature délicate et fine, un caractère loyal, un honnête homme. Je ne lui ai jamais reproché qu'une seule chose, c'est de trop travailler, et j'ai essayé bien souvent de le tirer de ses livres. Le sentiment qui est né entre Madame Jay et lui a été la suite de l'affection qui les unissait l'un et l'autre à la sœur d'Henri, Madame Couverchel, morte en 1886. J'avais été inquiété à plusieurs reprises par des crises nerveuses dont souffrait mon beau-fils. Madame Jay avait depuis la fin de 87 des idées de suicide, au sujet duquel je lui adressais moi-même des observations. Henri ne m'a jamais parlé de cet amour, mais quand sa mère, qu'il aimait tendrement, tomba malade, l'hiver passé, je fus frappé de son hésitation à revenir en Algérie. J'ai compris plus tard qu'il craignait de revoir Madame Jay. Je dus lui télégraphier de venir au plus vite s'il voulait voir sa mère vivante. Je jure devant Dieu que Madame Jay avait des idées de suicide et qu'elle nous les a avouées par lettre à ma femme et à moi. Madame Ducamper, mère d'Henri Chambige, dépose ensuite au milieu de la compassion générale. L'accusé, à la vue de sa mère, cache son visage dans son mouchoir et pleure abondamment. « J'aimais Madame Jay comme ma propre fille, » dit Madame Ducamper. « Elle a été une sœur pour ma fille Élise Couverchel, morte l'an dernier. Elle nous a tous consolés, Henri comme mon mari, comme moi-même, et leur sympathie réciproque a augmenté peu à peu. Monsieur et Madame Jay ont été en quelque sorte un père et une mère pour nos deux plus jeunes filles, qu'ils ont prises avec eux pendant notre deuil. Madame Jay avait depuis quelque temps des idées noires. Un jour, en me voyant prendre dans un placard de l'arsenic et du laudanum, « Combien faudrait-il pour mourir ?» me dit-elle. Et souvent, à la suite de ses accès de mélancolie, elle avait des moments de gaieté folle. Je l'interrogeais vainement sur la cause de son chagrin. « Oh, ne m'interrogez pas, répondait-elle. Vous ne m'aimeriez pas autant si vous me connaissiez mieux. » Je fis part moi-même à Henri de mes inquiétudes à l'égard de Madame Jay et de ses idées de mort. Demande. « Ah, vous savez que ces idées sont déniées par tous ces avis intimes qui ont été entendus ici. » Madame Ducamper, levant la main. « Je n'ai jamais menti, aujourd'hui moins que jamais. » Je m'en voudrais d'altérer la vérité. Je jure sur la tête de mes enfants que Madame Jay avait des idées de suicide et qu'elle me les a confiées. Je l'ai même grondée sévèrement. Monsieur le Président donne lecture des lettres de Madame Jay à Madame Ducamper. Toutes ces lettres, enjouées, familières, sont absolument insignifiantes et excluent même toute pensée de suicide. Une seule phrase est à retenir. Madame Jay écrivait à Madame Ducamper « Je ne dis plus de vilaines choses. » Que la mère d'Henri Chambige interprète dans ce sens « Je n'ai plus d'idée de suicide. » Madame Ducamper est convaincue que son fils et Madame Jay ont voulu mourir ensemble pour mettre fin à une situation devenue intolérable. « Henri, dit-elle, a toujours été très courageux. » Maître Trarieux, pour les autres, cette allusion au suicide manqué d'Henri Chambige soulève une vive émotion dans l'audience. Maître Trarieux, Madame Ducamper a dit à l'instruction qu'elle préférait encore avoir sa douleur que les remords de M. Jay, convaincue, disait-elle, que ce dernier savait que sa femme ne l'aimait plus, parce qu'elle lui avait avoué, ajoutant qu'il aurait dû la surveiller et ne pas la quitter. Madame du Camper croit-elle encore que M. G. a connu la passion de sa femme et que cependant il n'a pas mis Chambige hors de chez lui? Mais je crois absolument que M. G. a été averti par sa femme qu'elle ne l'aimait plus. Il n'aurait pas dû la laisser seule. Je suis persuadé que Mme G. a cédé parce qu'elle était énervée et malade. Personne plus que moi ne l'a aimée et estimée et n'a pleuré sa mort. Sensation prolongée. M. Noël Martin, docteur en médecine, dépose après Mme du Camper. C'est un des camarades d'enfance de l'accusé. Il lui a gardé une amitié touchante et il est venu s'établir à Constantine où il n'a cessé de le soutenir et de le consoler. M. Noël Martin dépose avec beaucoup de convenance et de sérieux. « J'ai toujours connu, dit-il, Henri Chambige, travaillant énormément, ayant fort peu d'intrigues féminines. Du reste, il était très timide avec les femmes. Henri m'a caché sa passion aussi longtemps qu'il a pu. C'est seulement au mois de novembre dernier qu'il m'a avoué qu'il aimait une femme qui n'était plus une jeune fille. Je demeurais avec lui rue Gay-Lussac. J'essayais vainement de le soutenir, de le consoler. Et un jour, il me confessa le nom de Madame G. Il me dit qu'il l'aimait depuis la mort de sa sœur et que leur douleur commune avait dégénéré en passion. Avant de quitter Paris pour aller soigner sa mère, il me remit des billets et des lettres qu'elle lui avait écrits, des fleurs qu'elle avait portées dans son sein. Et précédemment, me dit-il, Madame G. lui avait aussi donné une photographie et son alliance, mais il les lui avait rendues. Et comme j'habitais en Garni, je confiais ce dépôt à mon ami M. Gauthier, bibliothécaire à l'Arsenal. C'est là que M. Lascoux, juge d'instruction, l'a saisi sur mes indications. Mais comme on accusait mon ami Henri d'avoir empoisonné ou hypnotisé Madame G., j'ai cru de mon devoir de donner à la justice des documents qui établissaient qu'il ne s'agissait pas d'un guet-apens, mais d'un double suicide d'amour. M. Lascoux, après avoir pris connaissance des lettres, me dit que M. G. n'avait plus qu'à demander la mise en liberté de Chambige, au lieu de s'exposer à voir l'honneur de sa femme mise en discussion devant une cour d'assises. M. le procureur général Maillet. « Monsieur Lascoux est un magistrat distingué d'un caractère trop élevé pour qu'on puisse lui prêter une, avec vraisemblance, un pareil propos. Jamais un magistrat français n'a pu dire pareille chose. » Monsieur Noël Martin ajoute encore quelques détails. « Voyez, lui aurait dit Chambige en lui montant les cheveux de Madame G., elle est si peu coquette qu'elle ne se préoccupe même pas d'enlever les cheveux gris. » Des boucles qu'elle me donne. Maître Trarieux adresse ensuite quelques questions à M. Noël Martin sur Paola, cette demoiselle de brasserie, qu'Henri Chambige avait fréquentée par intervalles assez rares et qui avait entrepris la lourde tâche de l'étourdir et de lui faire oublier sa peine. Cette intéressante personne n'ayant pas été citée à l'audience, l'épisode de ce caprice du quartier latin restera forcément dans l'ombre. L'audience est levée à 7 heures. Devant la porte du palais, la population, surexcitée de plus en plus, accueille la sortie de l'accusé par des sifflets mêlés de cris épars de « Vive Chambige !» Audience du 10 novembre. Aujourd'hui, Henri Chambige fait réellement mal à voir. On se demande s'il pourra supporter l'audience. Tout son corps est secoué par un tremblement nerveux et à chaque instant, il éclate en sanglots. Monsieur le docteur Poulet, médecin militaire, chef de l'hôpital militaire de Constantine, engage avec les médecins du parquet une controverse des plus aigres et conteste que les premières constatations médicales aient été faites d'une façon complète. Il est exact, en effet, que l'autopsie n'a été faite que 11 jours après la mort. Le docteur Poulet y a assisté, et après avoir protesté contre cet inconcevable retard, il déclare qu'il est résulté pour lui de cet examen que la malheureuse femme était atteinte d'une maladie de foie des plus graves. Le docteur Poulet apporte même à la cour une petite bouteille enfermant 75 calculs extraits par lui du foie de Madame Jay. Interpellé par Maître Durier sur le point de savoir si cette affection du foie était de nature à donner à Madame Jay des idées noires, le docteur Poulet répond que la chose n'est pas douteuse. Parenthèse. La fin de la déposition du docteur Poulet se perd dans les digressions qui n'indiquent que trop un incurable dérangement d'esprit. Le pauvre docteur, qui avait contracté une insolation pendant les grandes manœuvres, devait succomber au Val-de-Grâce quelques semaines après le procès à la maladie mentale dont il était déjà visiblement atteint. M. Rabhi, pharmacien à l'hôpital militaire de Constantine, a été chargé de l'examen chimique des entrailles de Madame Jay. « Je n'ai trouvé, dit-il, absolument aucune trace d'un stupéfiant quelconque. Il est certain que Madame Jay n'a été ni anesthésiée, ni chloroformée, ni endormie par un moyen quelconque. Je n'ai pas trouvé davantage trace de poison. Il est certain que Madame Jay n'a pas été foudroyée avec de l'acide prussique. Mais la science ne connaît pas les réactifs de tous les poisons. J'avais même cru à un moment donné constater la présence de l'atropine. Un examen plus approfondi m'a donné à croire qu'il ne s'agissait là que d'un phénomène naturel provenant de la putréfaction. Maître Trarieux. Il a été procédé à l'autopsie que 11 jours après la mort. Le docteur ne sait-il pas que certains poisons végétaux disparaissent au bout de 24 heures sans laisser de traces? C'est l'opinion du docteur Boardel. Le témoin. Oh, c'est la mienne également. Le docteur Rabhi a examiné également les taches gluantes constatées sur un tapis de salle à manger dans la chambre voisine de celle où Madame Jay a trouvé la mort. L'expert déclare que ces taches ne renfermaient aucun vestige de poison et provenaient, selon toute vraisemblance, de sauce ou de café renversé. La liste des experts est close. La cour entend encore quelques intimes, quelques compagnons d'études d'Henri Chambige. Rien de plus éloquent, de plus touchant que ce témoignage unanime apporté à l'accusé, avec tout le cœur et toute la chaleur communicative de la jeunesse. M. Fung Bruntano, sous-bibliothèque à la bibliothèque de l'Arsenal, déclare qu'il a travaillé longtemps avec Henri Chambige, que jamais il n'a connu caractère plus loyal, nature plus séduisante, et que sa femme et toute sa famille partagent l'estime profonde que les qualités de cœur de l'accusé lui ont inspirée. M. Fung Brentano s'est aperçu seulement que le pessimisme de la littérature contemporaine avait exercé un effet fâcheux sur la nature déjà exaltée de son ami. À la nouvelle du drame de Sidi Mabrouk, le témoin n'a pas douté qu'Henri Chambige se fût suicidé avec une femme qu'il aimait et qu'il aimait. Il écarte avec indignation toute idée d'assassinat ou d'empoisonnement. Le docteur Poulet, rappelé à la barre pour être confronté avec le médecin du parquet, le docteur Leroy, décoré du Bourget, déclare que la tentative de suicide d'Henri Chambige a été sérieuse et que, si son revolver avait dévié d'un millimètre, il se fût certainement tué. On attendait avec curiosité la déposition du témoin suivant, M. Martin Laya, homme de lettres, un des intimes de Chambige au quartier latin. M. Martin Laya est l'auteur de 2 romans décadents, Yvon d'Or et Monsieur de Joyeuse. Après avoir défini Henri Chambige comme une sensitive, une âme jeune et naïve, perdue par l'excès de travail et surexcitée par une trop grande éducation intellectuelle, Monsieur Martin Laya ajoute que son ami est un garçon de cœur, incapable d'une infamie, qui le jure. J'avais parfaitement remarqué, dit encore Monsieur Martin Laya, l'alliance en or qu'Henri Chambiche portait à la main gauche et qui, je l'ai su plus tard, lui avait été donnée par Madame Jay. Maître Trarieux. Le Thébrun n'est-il pas l'auteur d'une lettre adressée à Henri Chambige dans sa prison, au nom de ses amis de Paris et dans laquelle je lis ce passage? Tu parles de fierté, oh oui, tu peux être fier de reconstituer toute la scène du drame à ton honneur. Courage, il n'y a rien de perdu. Une grande douleur, un grand trou, et puis la vie va repasser. Tu dis que le grand ressort est cassé. Non, non, ne le crois pas. Tu seras un grand homme après avoir été un grand souffrant. Merci pour ton livre sur l'âme intransmissible, que j'ai fini par comprendre. Je te serre le cœur. Le témoin. Je suis un jeune homme, j'ai 24 ans. Ne me reprochez pas d'avoir exprimé mon attachement à Henri Chambige en termes dont je regrette certainement l'exagération. Mais il était traité d'assassin, d'empoisonneur. On lui jetait à la face toutes sortes d'infamies. Nous, ses amis, nous avons pensé qu'il était de notre devoir de nous lever pour le consoler et le défendre. Mais n'avez-vous pas aussi écrit dans la préface de votre livre « Monsieur de Joyeuse » dédié à Henri Chambige? Tu avais vu la vie de trop haut et tu es tombé. Mais les jurés comprendront qu'il est des actes auxquels n'atteint point la morale sociale. Les jurés s'inclineront peut-être devant cet homme aujourd'hui leur justiciable et qui, par ses œuvres littéraires, deviendra bientôt leur maître. Monsieur Martin Laya. Oui, encore une fois, je regrette profondément de m'être emballé. Mais Henri Chambige, j'étais calomnié, il souffrait. Cela doit suffire pour qu'on m'excuse. Assentiment général. M. Mercier, ancien maire de Constantine, avocat et expert en écriture arabe et française, déclare que pour lui, l'identité n'est pas douteuse entre certains caractères des lettres attribuées à Madame Jay, trouvées chez Henri Chambige, et l'écriture même de cette dame. Il a été frappé de ressemblances multiples. M. Mercier a entendu, le soir du drame, un des amis intimes de la famille Jay, M. Fock, qui revenait de voir le cadavre de cette malheureuse femme à Sidi Mabrouk, s'écrier avec la plus grande douleur. « Oh, il n'y a pas moyen de douter !» Il se souvient également de la raison funèbre du pasteur Scherer. « Nous la défendrons malgré tout, nous qui l'avons connue, M. Scherer et M. Fock, conteste tous deux la portée de ces propos, dont M. Mercier se rappelle la substance, mais non les termes précis. M. Baraton Dumousseau, actuellement substitut à Chambéry, était substitut à Constantine au moment du drame de Sidi Mabrouk et a procédé à certaines constatations. C'est lui qui a retrouvé sous le lit les peignes de Madame Jay, dont les cheveux étaient dénoués, on se le rappelle. Le corset était à la fois délacé et dégrafé. Le témoin a constaté, à peu de hauteur du sol, aux 50 cm environ, la trace d'une des balles que s'est tirée Henri Chambige. Maître Trarieux s'étonne que la balle ait été ainsi tirée vers le sol si la tentative de suicide n'est pas une comédie. M. Durier fait observer que l'accusé a tiré étant presque étendu sur un divan. Les derniers témoignages sont ceux de quelques amis intimes de Chambige, des camarades du quartier latin, qui ont tenu à l'entourer de leur sympathie et de leur amitié avec une fidélité consolatrice qui prouve qu'il ne faut pas trop médire de la jeunesse d'aujourd'hui. Ces dépositions, pleines de cœur et de généreuse confiance dans l'accusé, ont profondément remué l'auditoire. Dommage intérêt.